VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 16 février 2022. Jean-Roger Bion à ce micro, bonsoir à tous, à la une de nos informations. Au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a prêté serment aujourd'hui comme le nouveau président. Mini-sommet à Paris sur le Sahel avec l'annonce attendue d'un retrait des forces françaises du Mali. Une quarantaine de morts au Brésil dans des inondations provoquées par des pluies diluviennes. Les États-Unis disent ne pas constater un retrait russe de la frontière avec l'Ukraine malgré les annonces de Moscou. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord le journal. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été investi président du Burkina Faso par le Conseil constitutionnel 3 semaines après avoir pris le pouvoir par un coup d'État. Nani Talani, compte rendu.
Je jure devant le peuple burkinabé de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la constitution du Burkina, a déclaré Paul-Henri Sandaogo Damiba en prêtant serment devant le Conseil constitutionnel lors d'une cérémonie retransmise par la télévision nationale. Avant son discours, il a observé une minute de silence à la mémoire des civils et soldats tués dans la lutte contre les djihadistes. Pour prendre le dessus sur l'ennemi, il faudra se lever et se convaincre qu'en tant que nation, nous avons plus que ce qu'il faut pour gagner cette guerre, a déclaré le lieutenant-colonel Damiba, vêtu d'un treillis militaire avec un béret rouge sur la tête. Le lieutenant-colonel Damiba, 41 ans, a pris le pouvoir le 24 janvier. Il a promis de réorganiser les forces armées pour renforcer la coopération entre le service de renseignement et les opérations sur le terrain et rendre le soutien logistique plus flexible. Il s'est également engagé à lutter contre la corruption et à dépolitiser l'administration publique. Paul-Henri Sandaogo Damiba n'a pas dit combien de temps il comptait rester au pouvoir, mais a promis de travailler avec la CEDEAO pour un retour à des élections démocratiques.
Le président français Emmanuel Macron réunit ce soir à Paris plusieurs dirigeants africains et européens avant l'annonce attendue d'un retrait du Mali après 9 ans d'intervention militaire contre les djihadistes. Il s'agit d'un départ rendu inévitable par les relations exécrables avec la junte au pouvoir à Bamako. Le point avec Eric Manirakiza.
Cette réunion devrait entériner le retrait des troupes françaises et européennes du Mali et un redéploiement régional pour poursuivre la lutte antiterroriste au Sahel. Une conférence de presse est prévue demain matin à l'Élysée, a annoncé la présidence. Les dirigeants du Niger, du Tchad et de la Mauritanie, ainsi que ceux de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo, du Bénin et du Sénégal, confrontés à une menace terroriste grandissante vers le golfe de Guinée, participeront. Grands absents de la réunion, le Mali, principal intéressé, suspendu des instances de l'Union africaine, tout comme le Burkina Faso et la Guinée, pour cause de coup d'État. Cette rencontre se tient à la veille d'un sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine à Bruxelles. Outre les représentants de l'Union européenne, les dirigeants de la Suède, la Slovénie, le Danemark, la Belgique, engagés ou soutenant les différentes opérations sur le terrain, comme les forces spéciales Takuba ou la formation militaire, seront présents. Quelques 25 000 hommes sont actuellement déployés au Sahel, dont environ 4 300 Français, y compris 2 400 au Mali, dans le cadre de l'opération anti-djihadiste Barkhane, selon l'Élysée.
Des combattants djihadistes Chebab ont lancé simultanément plusieurs attaques sur des commissariats dans et autour de la capitale somalienne Mogadiscio au cours de la nuit de mardi à mercredi, tuant 2 personnes et en blessant 20 d'autres, a indiqué la police. Des hommes lourdement armés ont investi un commissariat du district de Kasda dans la ville au milieu de la nuit. Ils ont échangé des tirs avec les forces de sécurité après avoir fait exploser une voiture piégée. Au cours d'une deuxième attaque, les rebelles les djihadistes ont visé le quartier de Daru Salam dans les environs de Mogadiscio. Les Chebab ont revendiqué les attaques, affirmant avoir visé 6 endroits dans et autour de la capitale. Drame en Côte d'Ivoire, 8 personnes sont mortes et plusieurs ont été gravement blessées dans l'incendie survenu dans une boulangerie de Mans, grande ville de l'ouest du pays, indique un communiqué de la mairie de la localité. À la mi-journée, le feu était maîtrisé par les pompiers, a précisé la mairie. Mercredi après-midi, l'origine de ce sinistre demeurait encore inconnue. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a assuré mercredi que son gouvernement surveillait attentivement les actuelles manifestations anti-immigrants afin d'éviter qu'elles ne dégénèrent en agressions xénophobes dans un contexte d'hostilité croissante à l'égard des étrangers en Afrique du Sud. Les agences nationales de sécurité surveillent et feront en sorte que ces choses ne se transforment pas en violence contre les gens d'autres pays, a déclaré le chef de l'État sud-africain à la presse au Cap après un discours au Parlement. Le groupe pharmaceutique allemand BioNTech a développé un laboratoire composé de conteneurs qu'il compte envoyer en Afrique sous forme de kits à assembler afin de pallier ce que l'Organisation mondiale de la santé a qualifié de disparité immense dans l'accès à la vaccination contre le COVID-19 dans le monde. La mise en place de la première usine de l'Union africaine devrait commencer à la mi-2022. La société de biotechnologie va ainsi tenir l'engagement pris l'année dernière auprès du Rwanda, de l'Afrique du Sud, du Sénégal et de l'Union africaine d'obtenir une production de vaccins sur le continent.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Brésil, au moins 38 personnes sont mortes à la suite de pluies diluviennes qui ont entraîné des glissements de terrain et inondations à Petrópolis, près de Rio de Janeiro. Claire Morin-Gibou.
Le bilan des pertes humaines a déjà doublé depuis la veille dans cette localité qui a reçu plus de pluie en 6 heures que celle reçue habituellement en un mois. Plus de 180 pompiers sont sur place avec quelques 400 militaires fouillant la terre et les débris dans cette ville de montagne. D'énormes quantités de boue ont englouti des habitations et des toits en tôle jonchaient le sol. De nombreuses voitures ont été emportées par le courant. Des commerces ont été complètement inondés par l'eau dans le centre de Petrópolis. La mairie de la ville a décrété mardi soir l'état de calamité pour faire face à l'urgence. En cette saison des pluies, le Brésil a été frappé par de fortes précipitations.
Les États-Unis disent ne pas constater un retrait russe des frontières ukrainiennes malgré les annonces de Moscou. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a indiqué ce matin que la menace demeure réelle. Les précisions d'Abdou Ramandia.
Sur la chaîne américaine ABC, Anthony Blinken a déclaré que le retrait russe n'est pas un retrait significatif et qu'au contraire, des forces continuent d'être massées à la frontière. Il dit que Washington est prêt à la diplomatie, mais se prépare aussi à une invasion de l'Ukraine. Depuis mardi, la Russie affirme avoir ordonné un retrait partiel des plus de 100 000 soldats massés à la frontière avec l'Ukraine. Les Occidentaux ont accueilli ces signes d'apaisement avec prudence. Par ailleurs, le président américain Joe Biden et le chancelier allemand Olaf Scholz doivent s'entretenir au téléphone ce soir, au lendemain d'une visite d'Olaf Scholz à Moscou. La déclaration de M. Scholz indiquant que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN n'est pas à l'ordre du jour a suscité quelques remous aux États-Unis.
Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne auront demain jeudi des discussions sur l'évolution des tensions autour de l'Ukraine, a annoncé aujourd'hui un porte-parole du Conseil européen. Les Ukrainiens, eux, ont paré mercredi les rues du pays de drapeaux nationaux et chanté l'hymne national pour manifester leur unité face aux craintes d'une invasion russe. Le président Volodymyr Zelensky a assisté à des exercices militaires dans le nord-ouest du pays, puis s'est rendu dans la région orientale du Donbass pour rencontrer les troupes sur place. L'Iran n'a plus que quelques jours pour se rallier à un accord sur son programme nucléaire ou déclencher une grave crise de prolifération, a averti aujourd'hui le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian. Plus on avance, plus l'Iran accélère ses procédures nucléaires, moins il y a d'intérêt pour les parties à rejoindre l'accord, a déclaré M. Le Drian devant le Sénat français. Ce n'est pas une question de semaine, c'est une question de jours, a-t-il martelé. L'ONU prévient d'un épuisement des fonds d'aide humanitaire au Yémen, de nouvelles réductions de l'aide sont à craindre dans les mois à venir en raison d'un manque de financement qui pourrait aggraver la famine touchant déjà le pays, a alerté mardi le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence des Nations Unies. Environ 80% de la population yéménite est dépendante des programmes d'aide. L'ex-président hondurien Juan Orlando Hernandez, réclamé par la justice américaine qui le soupçonne d'être lié à un trafic de 500 tonnes de cocaïne, a été présenté à un juge ce mercredi au lendemain de son arrestation. L'ancien dirigeant de droite qui a cédé le pouvoir le 27 janvier à la présidente de gauche, Xiomara Castro, après deux mandats successifs, a passé la nuit à la police. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
La Centrafrique veut recouvrer 138 milliards de francs CFA de recettes budgétaires cette année. Bangui compte intensifier la mobilisation des recettes intérieures par les régies financières. Il s'agira entre autres de l'élargissement de l'assiette fiscale, du déploiement des systèmes de télépaiement et de télédéclaration, des actions contre tous les grands importateurs dont les obligations fiscales ne sont pas à jour, l'identification des menus recettes et redevances prélevées directement par les ministères pour les consolider sur le compte unique du Trésor. La Sierra Leone a mis à jour et en ligne le registre des garanties qui permettra aux petites et moyennes entreprises qui font des emprunts à utiliser les biens mobiliers et immobiliers tels que des machines, des équipements et des terres comme garantie pour obtenir des facilités de crédit. Le registre inclut désormais des systèmes ou moyens de paiement électroniques. Pour terminer, Washington veut donner au Burundi 400 millions de dollars pour appuyer les efforts de Bujumbura dans l'agriculture, la santé, l'éducation, la bonne gouvernance, l'environnement, l'aide humanitaire, les droits humains, le développement durable, la croissance économique et le secteur privé. L'annonce de cette aide intervient deux mois après la levée des sanctions américaines contre le Burundi et au lendemain de la levée des sanctions européennes contre l'État burundais.
Place maintenant au sport avec Yakuba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Suite des matchs aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions en Europe ce soir, le Bayern Munich du champion d'Afrique Bouna Sarr part dans la peau d'un favori à Salzbourg. À suivre en parallèle, le choc Inter Milan-Liverpool où Sadio Mané et Mohamed Salah sont attendus 10 jours après leur finale à la Cannes. Hier, Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain buteur sur le fil 1-0 a douché le Real Madrid qui aspire à le recruter. Promenade de santé pour Manchester City de l'Algérien Riyad Mahrez. L'équipe de Pep Guardiola n'a pas fait de détails à Lisbonne sur le terrain du Sporting Portugal corrigé 5-0. Des nouvelles des Jeux Olympiques de Pékin, la Nigériane spécialiste du monobob et du skeleton, Simidele Agdebo, absente à ces Jeux, pense qu'elle y serait, n'eût été ce qu'elle qualifie de discrimination basée sur le sexe. Elle dit avoir subi une discrimination fondée sur le sexe dans les places attribuées aux hommes et aux femmes. Aux Jeux de Pékin, les hommes se voient attribuer 28 places dans l'épreuve de bob à 4 et 30 places dans le bob à 2. Les femmes, elles, ont droit à 20 places en monobob et 20 en bob slight à 2. Adeabo, qui est la première athlète africaine à avoir remporté une épreuve internationale de bob slight, pense qu'elle serait aux Jeux de Pékin si les règles étaient différentes. Elle a déposé une plainte officielle auprès de la Fédération internationale de bob slight et de skeleton. Simidele Adeabo, athlète nigériane du monobob et de skeleton.
C'est vraiment très frustrant. J'ai fait tellement de progrès, rien qu'en voyant comment j'ai grandi et je me suis améliorée dans le sport. Et je veux juste être en compétition avec les meilleurs du monde. Et donc, c'est vraiment frustrant de voir cet élan brisé. Bref, pas à cause de quoi que ce soit que j'ai fait ou d'un manque de talent ou de compétences, mais simplement parce que les règles en place sont illégales et discriminatoires.
Simidele Adeabo, athlète nigériane du monobob et de skeleton. Basketball, Philadelphie s'est pris une sacrée déculottée face aux Celtics 135-87 avec 19 points, 9 rebonds et 6 passes décisives. Le Camerounais Joel Embiid a été en deçà de son apport habituel. De son côté, Phoenix est décidément quasi imprenable cette saison quand sonne le Money Time. Démonstration une nouvelle fois faite aux dépens des Los Angeles Clippers, écarté 103-96. Memphis est à sa 6e victoire consécutive. Après son succès 121-109 face à la Nouvelle-Orléans, Dallas et son magicien Luka Doncic ont joué un vilain tour à Miami 107-99. Pourtant leader à l'Est, Milwaukee a battu Indiana 128-119. Cleveland, battu 124-116 à Atlanta, est tombé sur l'oiseau de proie Trae Young, 41,9 passes décisives. Charlotte a été défait après prolongation 126-120 chez les Timberwolves.
Page des sports signée Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Burkina Faso, le chef de la junte, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, a prêté serment aujourd'hui en tant que président du Faso devant le Conseil constitutionnel. Sa priorité, la restauration de la sécurité dans le pays, ravagé par de nombreuses attaques terroristes. Les populations attendent beaucoup du nouveau chef de l'État. Lamine Traoré est notre correspondant à Ouagadougou.
Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution, l'acte fondamental et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso.
Le Conseil constitutionnel vous donne acte de votre serment, vous déclare installé dans vos fonctions de président du Faso, chef de l'État, et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions.
La main droite levée, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba a prêté serment devant le Conseil constitutionnel. Il devient ainsi président du Faso, chef de l'État, chef suprême des forces armées. Dans son premier discours après sa prestation de serment, le lieutenant-colonel Damiba veut restaurer l'intégrité territoriale.
La restauration de l'intégrité de notre territoire comme priorité absolue passera par une réorganisation de l'ensemble des forces combattantes afin de les rendre complémentaires, interopérables pour un maillage efficient du territoire. Cela permettra de mieux soutenir notre choix stratégique, d'orienter résolument notre action vers l'offensive contre tous les groupes armés qui resteront dans une logique de répandre la violence de façon aveugle au sein de nos communautés.
Dans les rues à Ouagadougou, les populations savent qu'il faut aller vite.
On va voir comment ça va se passer. Sinon, en matière de sécurité, ça ne va pas. Jusqu'à l'heure actuelle, les Burkinabés sont inquiets. On attend ce qu'on voit. Ils vont se mettre le gouvernement en place.
C'est très bien. Vu ce qui se passait, il est venu pour restaurer et sauvegarder nos acquis. Vraiment, moi, je le souhaite un bon vent. On souffre toujours. Lui, il ne peut pas tout éradiquer. Il vient seulement, il fait ce qu'il peut. Et puis, bon, il sert le pouvoir à quelqu'un d'autre aussi.
Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba devient le premier président du Faso à prêter serment devant le Conseil constitutionnel à la suite d'un putsch. Dans les jours à venir, il devra mettre en place un gouvernement. Une commission travaille déjà sur l'écriture d'une charte de la transition. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Le président français Emmanuel Macron devrait annoncer dans la foulée du mini-sommet de Paris sur le Sahel le retrait des troupes françaises et européennes du Mali. Paris compte toutefois poursuivre la lutte anti-djihadiste dans le Sahel et veut proposer ses services à d'autres pays d'Afrique de l'Ouest pour les aider à contrer la propagation du djihadisme. Éric Manirakiza a joint à Paris Sedi Kaba, auteur d'un ouvrage Mali-Sahel, notre Afghanistan à tous.
Les Maliens ont visiblement un peu anticipé ce retrait-là, puisque, comme vous savez, depuis quelques mois, le Mali a contracté les services de la société privée Wagner, même si officiellement, il s'agit de la coopération bilatérale. Et si aujourd'hui, l'armée française partait du Mali, et à mon avis, la place va être occupée par de nouveaux acteurs, comme vous le savez sans doute. Il n'y a pas que la Barkhane au Mali. Il y a Barkhane, il y a la MINUSMA, il y a les forces russes. Donc tout ça fait que, effectivement, si l'armée française s'est retirée du Mali, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la lutte antiterroriste au Sahel. Mais ça ne va pas précipiter le Mali dans les mains des groupes djihadistes. Je pense qu'il y aura une capacité de résistance qui va être organisée par les Maliens et par les autres partenaires du Mali, parce que L'effondrement du Mali signifierait aussi des risques graves pour l'Afrique de l'Ouest, pour les pays du Sahel, mais aussi pour les pays du Golfe de Guinée, comme le Bénin qui vient d'être attaqué pour la troisième fois en seulement quelques mois, puisque le Bénin a subi une attaque en décembre et a subi une nouvelle attaque au début du mois de février qui a fait au moins 9 morts. Et on sait que la Côte d'Ivoire est dans les viseurs de groupes djihadistes, le Togo aussi. Donc tout ça fait que, à mon avis, personne ne laisserait le Mali à lui seul face au groupe djihadiste, même si la France décidait de retirer son armée.
Mais la présence française a quand même un effet très dissuasif.
Oui, oui, parce qu'il ne s'agit pas seulement de la présence française. Ce qui est en jeu, c'est la présence française avec Barkhane, mais c'est aussi la présence européenne, puisque, comme on sait, depuis quelques mois, à l'initiative de la France, beaucoup de pays européens ont décidé d'envoyer des forces au niveau du Mali, que ce soit des pays comme l'Estonie, la Lituanie ou la Roumanie, ou qui n'ont pas de tradition de coopération avec l'Afrique, ont envoyé des forces et il était prévu la création d'une force européenne sous le nom de Takuba, une force multinationale européenne sous le nom de Takuba qui devait permettre de procéder à la lutte antiterroriste. Donc si Barkhane s'en va, la force Takuba s'en va, c'est clair que ça nuirait à la capacité opérationnelle des différentes armées, mais ça ne conduit pas à l'effondrement de l'État malien, ni ça ne conduirait pas à la prise du territoire malien par les groupes djihadistes. Ça, on n'arrivera pas là, malgré les conséquences que le retrait français peut avoir.
Mais le chef du gouvernement malien, Choguel Pokala Maïga, a admis que 80% du territoire sont en proie à l'insécurité. Le 7 février, il disait que l'État malien est à terre.
Oui, oui, c'est évident que lorsque Serval arrive en janvier 2013, il n'y avait que 20% du territoire malien, qui est la partie nord, de Kidal à Tombouctou jusqu'à Gao. Aujourd'hui, la menace djihadiste s'est étendue au nord, à la région de Mopti, à la région de Ségou, à la région de Sévaré, et elle menace même de gagner le reste du Mali. La menace est réelle, c'est évident. Mais et cette menace, elle s'est accrue malgré la présence de Barkhane, malgré la présence des forces françaises. Donc, il faut sans doute un changement de stratégie pour qu'on ait plus de résultats.
C'était Sédic Abba, analyste et spécialiste du Sahel.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24 heures sur 24.
Au Nigeria, la police a déclaré lundi avoir arrêté 5 officiers, dont un de haut rang, pour leur implication présumée dans un cartel international de contrebande de cocaïne. Le commissaire adjoint Abba Kyari était déjà suspendu depuis le mois d'août pour blanchiment d'argent et fraude aux États-Unis. Un reportage de Timothy Obiezua à Abuja, relaté par Nathalie Barge.
L'Agence nationale antidrogue affirme que l'officier de police a comploté pour voler 15 kilos de cocaïne dans un lot saisi en janvier. Elle a publié des images montrant Abba Kyari en train de négocier avec un agent d'infiltration de l'agence et lui remettre plus de 60 000 $ en espèces. Le commissaire adjoint était déjà accusé d'avoir aidé un criminel international connu sous le nom de Oushpoupi Mentim à blanchir de l'argent aux États-Unis, selon une enquête du FBI. Baba Femi, porte-parole de l'Agence nationale de lutte contre la drogue.
Nous avons une mine de renseignements, des faits concrets allant des discussions aux photos et vidéos et une transcription détaillée de la communication entre lui et l'officier de l'agence. Les 15 kilos déjà sortis ont été partagés entre les informateurs qui lui ont fourni les informations pour la saisie, lui-même et ses hommes de l'équipe d'intervention du renseignement de la police.
Selon la police, le cartel travaille avec des agents antidrogue à l'aéroport international de l'État d'Enugu, dans le sud-est du pays, voie de transit de leurs opérations. Les Nigérians sont consternés par l'implication de policiers dans des affaires de drogue. Daniel Yerima, un habitant d'Abuja.
It's quite disheartening and disappointing. C'est assez décourageant et décevant. La situation est vraiment épouvantable et cela renforce encore la méfiance des citoyens nigérians envers les forces de l'ordre. Si quelqu'un qui est aussi haut placé pourrait être impliqué dans ces niveaux de criminalité, cela vous montre la pourriture qui est dans les systèmes.
Le Nigeria est classé parmi les pays où le trafic et la consommation de drogue sont les plus élevés en Afrique de l'Ouest. En décembre dernier, les autorités ont lancé un plan de lutte contre la drogue, parrainé par l'Union européenne et sous la supervision de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Femi Babafemi souligne que ces missions pour identifier les criminels sont très périlleuses.
Nous n'ignorons pas les menaces qui pèsent sur la vie des officiers impliqués dans cette enquête et nous continuons à faire de notre mieux pour les protéger dans l'exercice de leurs fonctions.
Les officiers arrêtés sont membres d'un réseau de drogue opérant au Nigeria, en Éthiopie et au Brésil. Abba Kyari ne s'est pas présenté à une convocation de l'agence antidrogue pour un interrogatoire la semaine dernière.
Abdourahmane Dia avec vous dans Washington Forum cette semaine, le bicentenaire de l'arrivée des premiers Noirs d'Amérique sur ce territoire qui deviendra plus tard le Libéria. Ces esclaves affranchis sont arrivés sur les côtes africaines le 14 février 1822 dans le cadre d'un mouvement de retour vers leur terre d'origine lancé aux États-Unis. Mais le Libéria a connu une histoire politique mouvementée et des relations heurtées entre autochtones et ceux qui s'y sont nouvellement installés. Quelles leçons tirer du Libéria ? Vers quel type de relations entre l'Afrique et sa diaspora ? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Le président Joe Biden a parlé mardi au peuple américain et russe des enjeux d'une éventuelle invasion de l'Ukraine, affirmant que si le président russe Vladimir Poutine envahissait son voisin, ce serait une guerre de choix qui infligerait des morts et des destructions inutiles. Le reportage de Cindy Sen et le récit de Gabi Dorsil.
La Russie affirme avoir éloigné certaines de ses unités militaires de ses frontières avec l'Ukraine. Mais le président Joe Biden a fait état mardi d'une situation encore grave, affirmant que les États-Unis n'avaient pas vérifié ces informations.
Le fait demeure qu'actuellement, la Russie a plus de 150 000 soldats qui encerclent l'Ukraine et la Biélorussie et le long de la frontière ukrainienne, et l'invasion reste tout à fait possible.
Biden s'est également adressé directement au peuple russe, affirmant qu'il n'était pas un ennemi de l'Amérique. Il a dit qu'il y a 77 ans, les États-Unis et la Russie se sont battus côte à côte pour mettre fin à la pire guerre de l'histoire.
World War II was a war of necessity.
La Seconde Guerre mondiale était une guerre de nécessité, mais si la Russie attaque l'Ukraine, ce serait une guerre de choix ou une guerre sans cause ni raison. Je dis ces choses non pas pour provoquer, mais pour dire la vérité, car la vérité compte.
Pendant ce temps, à Moscou, le président russe Vladimir Poutine a rencontré mardi le chancelier allemand Olaf Scholz et a déclaré aux journalistes qu'il était prêt à travailler davantage avec l'Occident pour désamorcer les tensions sur l'Ukraine. Scholz a déclaré que l'annonce de la Russie qu'elle retirait certaines forces de la frontière était un signe d'espoir. Le chancelier allemand a lancé un appel à préserver la paix.
Pour ma génération, la guerre est devenue impensable en Europe et nous devons faire en sorte qu'elle le reste. C'est notre devoir et notre mission en tant que chef d'État et de gouvernement d'empêcher une escalade de la guerre en Europe.
Les craintes d'une évasion restent élevées. L'Ukraine a déclaré mardi que les sites web du ministère de la Défense et des forces armées du pays, ainsi que les sites web de deux banques d'État, avaient été touchés par une cyberattaque, peut-être d'origine russe.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Michel Joseph. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.